Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Bonjour.
Bonjour Alain.
Bonjour, nous sommes avec Jean-François Berthelot. Nous n'avons pas les mains dans la farine, comme dans la chanson de Claude Dougaro, mais nous avons les mains prêtes à rompre le pain, prêtes à égrener les épis de blé qui ne sont pas encore dispersés, mais qui sont réunis par Jean-François Berthelot, qui est un grand collectionneur de blé, mais qui est surtout, d'abord et surtout, cultivateur, paysan de père en fils, dans les deux sens, et aussi panetier. Il travaille en famille avec son épouse et son fils dans la ferme du Roc à Porte-Sainte-Marie. Marie, près d'Agen. Et il est aussi, il faut le dire, coprésident d'un réseau important qui est le réseau Semences Paysannes, qui est un réseau d'associations qui conserve la biodiversité et qui conserve des semences et qui aujourd'hui a le droit aussi, on peut le dire, c'est tout nouveau, les échanger. Pas encore le droit de les vendre, mais le droit de les échanger. Jean-François Berthelot, votre passion, votre goût du pain, votre goût du blé au sens historique du terme, il vient d'où ?
Peut-être des racines très profondes, où déjà quand j'étais enfant, je sautais dans les remorques de blé et j'ai trouvé un grand plaisir à cela, et puis aussi à accompagner mon père dans les champs, sur la moissonneuse batteuse, Mais la grande différence, c'est que un jour mon papa m'a dit, moi j'ai produit du blé toute ma vie et j'aurais jamais mangé une fois le pain de mon blé. Et puis finalement, il ne connaissait le blé que dans les champs. Alors que, eh bien, nous, avec mon épouse et puis notre fils, nous avons eu l'occasion de mettre la main à la pâte, hein, c'est-à-dire de transformer ce blé, de le découvrir, de voyager à travers lui et d'en avoir une autre vue, une autre vision, d'avoir un autre lien avec lui.
Alors, Jean-François Berthelot, vous êtes venu avec des épis de blé. Alors, je ne sais pas si on les entend. Ils sont là, en tout cas, ils sont près de nous. Alors, celui que vous tenez dans la main, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ?
Ça, c'est une espèce de blé qui a été domestiqué la première, il y a aujourd'hui entre 10 et 12 000 ans, dans le croissant fertile, au niveau de la Syrie, du sud de la Turquie, de l'Iran, de l'Irak, et qui poussait à l'état sauvage, spontané, sous forme de petites prairies avec des épis. Et donc, on l'appelle l'engrain ou le petit épeautre, quoi. Et c'était la première céréale qui était domestiquée pour servir à faire à être consommée sous forme de galettes, puis après de pain, voilà. Donc c'est vraiment le blé le plus ancien, le premier qui était domestiqué. Il était au début sauvage, il se promenait tout seul, il se reproduisait tout seul. Et puis avec la domestication, l'homme se l'est approprié. Et là, c'est une très très longue histoire qui va commencer et qui va aller jusqu'à aujourd'hui de 10 000 ans de coexistence entre le blé et toutes ces espèces de blé et les paysans.
Alors, quand j'ai dit que vous étiez collectionneur de blé, c'était pas pour vous enfermer dans un territoire, au contraire. C'était pour vous montrer aussi votre curiosité, votre appétit de découverte. Pourquoi, quand on voit un champ de blé aujourd'hui en Île-de-France, il ne ressemble pas du tout à la diversité que vous apportez dans le bouquet d'épis aujourd'hui réunis devant vous.
C'est vrai que lorsqu'on traverse toute l'Île-de-France, il n'y a qu'un seul type de blé, quoi. Peut-être un barbu, l'autre pas barbu, et puis c'est à peu près tout, quoi. Alors que l'histoire du blé, c'est une histoire très très longue à travers le temps et à travers l'espace. Et en fait, le blé, il a cheminé de ce croissant fertile jusqu'à chez nous en rencontrant différents milieux. Et à chaque fois qu'il a rencontré différents milieux, il s'est adapté, il a changé de forme, il était choisi par les agriculteurs. Et donc, toute cette diversité de blé que nous avons, plusieurs milliers de variétés, elle s'est faite dans les mains des agriculteurs en fonction des différents lieux qu'ils ont rencontrés. Et aujourd'hui, avec l'agriculture industrielle, avec le fait que tous les lieux peuvent être homogénéisés, parce qu'on met la même quantité d'engrais, la même quantité d'eau, on les cultive de la même façon, finalement, avec une agriculture artificielle, on n'a plus besoin de cette diversité de blé. Et donc, il y a eu une érosion génétique qui s'est faite les 50 dernières années, en même temps que l'agriculture industrielle. Et on se retrouve avec juste quelques variétés. Et même si aujourd'hui, sur les catalogues, il reste 40 ou 50 variétés, finalement, elles se ressemblent toutes. Ici, dans le bouquet, vous avez des variétés qui sont bleues. C'est incroyable. Vous avez des variétés qui sont rouges. Vous avez des variétés qui sont barbues, pas barbues, des blanches, des noires, des... Et c'est toute cette diversité, qui permet aujourd'hui de faire aussi des pains qui vont être très, très, très différents. Parce qu'entre le pain d'engrain ou le pain de froment, c'est pas la même chose. Entre le pain de seigle et entre le pain d'amidonier, c'est pas la même chose. Entre le blé dur et le blé tendre, c'est pas la même chose.
Là, nous nous approchons de la Saint-Michel. Et c'est une période importante pour le blé, la Saint-Michel.
Oui, parce que c'est la période de l'année où les jours et les nuits vont être de même longueur. C'est la période où c'est la fin de l'été, où les feuilles des arbres vont commencer à tomber, à rentrer dans le sol. Et c'est la période où il nous faut préparer les terres pour qu'elles puissent accueillir la semence et faire pousser le blé. Cette année, c'est très très difficile, c'est la sécheresse, on avait à attendre que les pluies tombent pour travailler la terre. Mais normalement, c'est la période où on commence aussi à préparer les semences. Parce que nous ressemons que des blés qui sont issus de notre propre récolte. C'est normal, normalement, on a sa récolte et dans la récolte, on puise une certaine quantité pour ressemer. Mais aujourd'hui, tous les agriculteurs rachètent leurs semences. Alors que nous essayons justement de sélectionner certains blés et nous les gardons bien précieusement comme semences pour les reproduire d'année en année et puis offrir un pain de qualité. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important, quoi. La génération de nos parents, on leur a demandé après-guerre de produire. Ils ont produit, ils ont mis des quantités d'engrais, de pesticides, d'insecticides, de fongicides. Ils ont augmenté les rendements par deux ou par trois. Mais on a oublié qu'en fait, la finalité, c'était de faire du pain qui devait nourrir, qui devait être sain, qui devait être de très 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 bonne qualité. Et finalement, avec le temps, avec la production qui a augmenté, la qualité a vraiment baissé, quoi. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit même que le pain devient difficile à digérer, que voilà, on parle de ce problème du gluten qui commence à arriver. Et
tout ça. Il y a pas avec ces blés-là, il y a pas de problème de gluten.
Tous ces blés contiennent du gluten, mais ils n'ont pas maturé de la même façon, ils n'ont pas mûri de la même façon, ils n'ont pas poussé de la même façon, quoi. Et du coup, leur composition biochimique, la nature des protéines va être extrêmement différente. Et on a des pains qui sont beaucoup plus digestes parce que ces blés sont extrêmement différents dans leur constitution. On appelle toujours du blé le blé d'aujourd'hui, mais si on le compare avec ces variétés, ces populations qu'il y a là... C'est vraiment pas la même chose et on fera pas du tout le même produit. Et nous, on a découvert cette chose-là en mettant la main à la pâte, en faisant le pain. Moi, j'ai commencé de faire du pain avec des variétés classiques, modernes, au début, avec du levain, fait en agriculture biologique. Et je pensais que c'était le pain de la meilleure qualité possible, quoi.
On parle de population, d'un côté, ce qui donne une dimension humaine. Et on parle de variété de l'autre, ce qui est en plus le contraire de la vérité, puisque le problème de ces variétés, c'est qu'elles sont plus avariées que variées.
Oui, c'est incroyable. Aujourd'hui, on appelle une variété quelque chose qui n'a pas du tout de variété, qui n'a pas de diversité. Ce sont toutes des individus qui sont exactement les mêmes. On appelle ça en science des clones, hein. C'est comme ça, quoi. Et donc, on appelle ça une variété. Alors que nous, lorsque nous avons une variété, nous avons des épis barbus, par barbus, rouges, jaunes. Nous avons constitué une population que nous avons retravaillée, refaite à partir de croisements de variétés anciennes, où nous avons, avec une équipe d'une généticienne de l'INRA, Isabelle Goldringer, nous avons fait 90 croisements sur la ferme il y a une dizaine d'années. Et puis, dans ces 90 croisements, nous avons semé dans petites parcelles les unes après les autres pendant des années, et nous avons observé. Et puis nous avons vu que certaines variétés se plaisaient mieux, certaines variétés étaient plus belles, tenaient bien debout et avaient des belles couleurs. Et chaque année, nous avons fait des petits bouquets de sélection à travers toute cette diversité. Et au bout du compte, nous avions une vingtaine de croisements, une vingtaine de populations très diversifiées que nous avons réunies sous un même nom, voilà, on l'a baptisée la Jaffabelle, par exemple, eh bien, elle a une diversité. Et la Jaffabelle, je l'ai amenée, justement, elle a des épis de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes. Et c'est cette diversité-là qui est extrêmement intéressante, cette diversité-là aussi qui va peut-être nous permettre dans l'avenir de franchir les aléas climatiques de plus en plus difficiles, parce qu'elle a une faculté d'adaptation très très large, parce qu'au niveau génétique, eh bien, c'est une population constituée d'individus très très différents les uns des autres.
Comme quoi le mélange, c'est bon?
Oui, le mélange est très très... Pour faire le pain, il n'y a aucune variété qui fait magnifique, qui va faire un très très bon pain. Mais un mélange de variétés fera toujours un pain meilleur qu'avec une variété. Donc nous avons intérêt, aussi bien dans le champ de l'agriculteur que pour faire du pain, d'avoir une diversité et une variété. Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Crugère. Suite de Bach au violoncelle baroque par Peter Vilsepoë. Ouais, c'est là, pour moi, Bach, c'est la musique des sphères. Quoi. C'est ce que j'aime écouter quand on fait le pain, parce qu'on a vraiment l'impression que la création, toute la création est là et qu'elle va pouvoir se mêler aux actes de création qui se font à travers le vin, la pâte, les champs, la nature. C'est le grand tout qui se trouve magnifié, qui se trouve dont on peut entendre un chant.
Alors le grand tout, vous l'avez réuni là entre vos mains. Pourquoi dans un champ de la ferme du Roc, on a ces épis de toute taille, mais de haute taille, et qu'aujourd'hui les champs de blé ont l'air d'être presque pas du gazon, mais en tout cas sont beaucoup plus courts.
Eh bien, c'est parce que pour faire de très grandes quantités de rendement, avec des apports très importants d'engrais, il faut que la plante soit toute courte, parce que si elle est très 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 grande, eh bien, elle se courbe, elle verse, elle tombe à terre. Une des premières raisons pour lesquelles on a abandonné les variétés anciennes de blé, c'est quand l'intensification de l'agriculture a encore augmenté cette sensibilité qu'avaient déjà ces variétés. Et justement, dans tout le travail de création de variétés, création c'est pas le mot, de rebrassage de la biodiversité, où nous avons croisé des variétés anciennes entre elles et que nous avons regardé les descendants, un des premiers critères de sélection, c'était d'avoir des plantes qui restent aussi hautes, mais qui ne versent pas. Et dans les 90 croisements qu'on avait faits, il n'y en avait que 20 qui étaient hautes, très colorées, très brillantes et qui ne versaient pas. C'est ces 20-là qu'on a gardés.
Alors est-ce qu'on peut dire leur nom ?
Le mélange s'appelle la Jaffabelle, mais c'était des variétés qui n'existaient pas il y a 8 ans. Ce sont de la réunion, le croisement de variétés anciennes. Oui, il y avait des touzelles, il y avait du blé du Lot dedans, il y avait beaucoup de variétés régionales et qui aujourd'hui, ben voilà, ont eu des descendants. Et ce sont ces descendants qui sont dans nos champs, ces descendants qui sont vraiment adaptés à nos sols. Parce que quand nous avons choisi de faire des bouquets, nous gardions que les beaux pieds, les belles plantes, les plantes qui brillaient, la brillance de l'épi à maturité nous renseigne sur la qualité du pain. Une variété qui est très très brillante, qui est très très colorée, fera un bon pain avec des bons arômes. Nous avons fait beaucoup d'expériences de panification entre les variétés, nous avons pu l'observer. Et c'est ça que je trouve intéressant pour nous, c'est que on a pu faire le lien entre le blé, la façon dont il pousse, et le pain que nous allons obtenir. Et c'est ces liens qui ont été rompus aujourd'hui, quoi. Les agriculteurs, quand ils regardent leur champ de blé, ils n'ont aucune idée du pain que ça peut faire, du goût qu'il aura, de la couleur. Ils savent une seule chose, s'ils ont tant de quintaux et qu'ils l'ont vendu à tant d'euros la tonne, ça fera tant d'argent, quoi. Voilà, c'est ça le rapport de l'agriculteur avec son champ de blé. Nous, c'est différent.
Mais Jean-François Berthelot, cette année est une très mauvaise année en plus pour le blé français.
Oui, très mauvaise en quantité, mais très très mauvaise en qualité aussi. Quoi. Et la plupart des blés ne pourront pas faire du pain. Il y a déjà très très peu de blé qui va faire le pain. Il y a moins de 20% du blé français qui sert à faire du pain. Hein. Le reste, c'est l'alimentation animale, c'est des cols, des peintures, des autres choses. Il y a déjà bien longtemps que le blé ne sert plus qu'à faire du pain. Et là, il y a eu aussi sûrement une grande rupture avec cet être qu'est le blé et avec le pain. Nous avons une certaine vénération pour le blé, parce que nous savons qu'il sert à faire des pains qui sont vraiment magnifiques. Et ce sont des choses très, très simples. Très, 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 très simples. Le pain, il n'y a rien de plus simple que le pain.
Alors, si on parle de ce pain, comment peut-on associer ces populations posées devant vous avec les pains que vous avez apportés?
Il faut respecter l'intégralité du grain de blé. Il n'y a rien besoin de rajouter, il n'y a rien besoin d'enlever. Quoi. Et je pense que c'est le gros drame d'aujourd'hui de toute la boulangerie, qui a, comme dans un peu toute l'alimentation, qui a raffiné, qui a enlevé de nombreuses constituants qui étaient très utiles, très bons dans le pain, et puis finalement après qui a rajouté un certain nombre de produits pour permettre quand même de faire un
de,
pain...
De conserver,
de faire un pain qui va être extrêmement léger, qui va être un peu comme du vent, et qui va sécher vite ou reprendre l'humidité vite. Alors que dans le grain de blé, il y a tout. Tout.
Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce grain de blé?
Il y a tous les éléments. Il est extrêmement équilibré entre les sucres, entre les protéines. Il lui manque deux acides aminés, mais après, il est très riche en éléments minéraux. Mais les éléments minéraux, ils sont dans la peau du blé. Et en général, on raffine le blé, on enlève sa peau et on perd les éléments minéraux. Par exemple, on veut une farine très 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 blanche, mais quand on a une farine très très blanche, on n'a pas de minéraux. On enlève le germe, parce que le germe, il a des acides gras dedans, des huiles de germe de blé, on va l'acheter en pharmacie, tellement elle est bonne. Eh bien, ce germe de blé, si on garde la farine longtemps, par exemple, il va rancir. Donc pour garder les farines très très longtemps, on a enlevé le germe. Alors on enlève le germe, on enlève le son, les éléments minéraux, et on garde que ce qui est le moins intéressant, et on fait du pain avec ça. Notre pain est fait avec le germe de blé, une grande partie des enveloppes, et il est moulu dans un moulin à meule de pierre qui va très 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 lentement et qui permet de bien intégrer tous ces éléments-là. Et après, on a une farine qui est très très vivante et on fait du pain avec uniquement de la farine et de l'eau. Et un petit peu de sel pour lui donner le goût. Pas de levure, pas de rien de rapporté dedans. C'est uniquement la fermentation spontanée qui va faire le pain. Et là, on bénéficie de tous les arômes du blé, de toute l'intégralité du blé. Et on peut voir les grandes différences qu'il va y avoir entre un blé et un autre. Parce qu'on a toute sa spécificité.
Ce que disent les gens de l'agro-industrie, c'est que si on fait que du blé bio, on ne pourra jamais nourrir la planète. Mais alors, si aujourd'hui le blé ne sert à nourrir que pour 20% de sa production, est-ce qu'on pourra nourrir les hommes avec ces blés des origines ou ces blés non trafiqués?
Bien sûr, avec même des rendements de moitié, parce que c'est à peu près ce que l'on fait par rapport à la moyenne nationale.
La moyenne nationale du
blé est à 70 quintaux, 75 quintaux. Et nous, on est plus proche des 25 à 30, 35 quand c'est bien, mais plutôt 25 à 30. Voilà. Mais tout notre blé peut servir à faire du pain. Il n'est pas. La plupart des blés qui sont produits aujourd'hui sont des blés qu'on dit fourragés et qui vont servir à l'alimentation animale. Est-ce qu'on a besoin de dilapider ce bon blé pour nourrir des animaux dans un élevage industriel, des dindes, des poulets et des porcs, et de faire une viande de piètre qualité? Voilà, c'est la... Non, des gens qui sont très connaisseurs, comme Marc Dufumier, disent que nous avons beaucoup plus de céréales en ce moment sur la planète de produites que les besoins des humains, quoi. Donc il n'y a pas de problème à avoir une production encore inférieure en blé et nourrir l'humanité.
Et alors, si l'on examine vos populations, est-ce qu'on peut les présenter ?
Oui, on peut présenter quelques variétés de pays qui sont des variétés un petit peu anciennes. Voilà, par exemple, le blé du Queyras. Eh bien, le blé du Queyras, vous imaginez où il poussait, hein, dans le Queyras, c'est un blé de montagne. Vous voyez, il a un petit épi qui est pas très 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 gros parce que en montagne, eh bien, les terres sont pas très 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 riches. Mais il a réussi à s'adapter et à vivre dans le Queyras et en altitude à produire. Vous avez le rouge de Bordeaux, qui était une variété qui était produite dans le sud de la France. Vous avez le blé du Lot, qui par exemple poussait dans le Lot.
Près de chez vous.
Oui, c'est des toutes petites terres, très caillouteuses. Et c'était un blé, comme il y avait très très peu de terre, qui devait se presser pour mûrir, parce que sinon, le sec arrivant, l'été arrivant, eh bien, il n'arrivait pas à être suffisamment mûr. Donc c'est un blé très très précoce, qui va très très vite, qui mûrit très très vite. Parce que, voilà, et puis il y a, la touzelle rouge de la Drôme qui poussait dans la Drôme, qui est un blé rouge. Il y avait la bladette de Puy-le-Reims, qui vient de Puy-le-Reims dans le département voisin, qui poussait sur des coteaux très argileux et qui faisait un excellent pain. Et d'ailleurs, que des amis agriculteurs se sont remis à cultiver. Et dans le village de Puy-le-Reims, on peut trouver du pain avec cette fameuse bladette de Puy-le-Reims. Donc c'est aussi tout un patrimoine qui est conservé. Et puis si on veut aller vers un autre mode d'agriculture qui ne dilapide pas toutes les matières fossiles, qui n'utilise pas de produits chimiques, il faudra des variétés aussi plus rustiques. Il faudra des plus adaptées. Et ce jour-là, ces variétés-là vont retrouver un sens qui peut-être aujourd'hui n'a plus lieu d'être dans une agriculture extrêmement intensive et productive.
Si l'on voyage encore dans ces blés, qu'est-ce que vous pouvez dire pour traduire aux auditeurs de France Culture ces choix ? Pourquoi un épi est barbu ? Pourquoi ?
Ce sont les mystères,
oui,
mais les mystères de la vie.
Qu'est-ce qui les caractérise ?
Peut-être une chose qui m'impressionne le plus, c'est que avec le temps, j'ai appris à découvrir et que j'ai appris aussi à faire observer à mes collègues agriculteurs, c'est la brillance. Toutes les variétés que nous avons ici, malgré qu'il n'y a plus jusqu'au mois de juin et que l'été n'était pas favorable pour les céréales, ont une très 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 belle brillance, ont une très très belle couleur, quoi. Si vous prenez une variété de blé extrêmement moderne, cultivée de façon extrêmement intensive, quoi, hein, eh bien, quand le champ arrive à maturité, souvent d'un seul coup il blanchit, il devient un peu gris, il n'a pas de couleur, quoi. Ici, vous voyez des couleurs très très vives et très 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 brillantes.
C'est très beau.
Je pense que si on a...
La palette est très, très, très large, d'ailleurs, entre le jaune paille et le brun presque prune.
Et même certains quasiment bleus.
Oui, on dirait un faisan.
Avec un reflet bleuté. Il y a des variétés qui ont... Regardez cette espèce-là. On dirait plus qu'on est en présence d'un insecte que du monde animal que du monde végétal.
Comment s'appelle cet insecte, Jean-François Berthelot?
Ce blé, c'est un blé qui vient de Géorgie, et qui d'ailleurs en Géorgie, la fête nationale est une fête du blé. C'est cette variété qui fait un pain de très très bonne qualité, qui est panifié le jour de la fête nationale en Géorgie. Et là, on est vraiment en présence d'un végétal qu'on sent qui est extrêmement animé de force, qui est. On peut pas rester insensible devant. Là aussi, la beauté est un critère très très important pour moi dans ma sélection. Parce que cette beauté du champ, cette brillance du champ, on la retrouve directement dans le pain.
Et on la redécouvre dans le ventre.
Et bien sûr, parce que le blé se rapproche de l'homme dans le pain, quoi. Le pain, c'est du blé qui s'est rapproché un peu de l'homme parce que c'est du blé qui est devenu plus digeste. Le pain est un aliment extraordinaire et la meilleure façon de manger du blé, c'est du pain. C'est pas de manger des grains comme une poule. Parce que là même, on aura des problèmes de digestion, de digestibilité, d'assimilation des éléments même. Alors que la fermentation, elle reprend tous les éléments, elle les prédigère. Et c'est pour ça aussi que lorsque nous faisons des pains au levain, avec un véritable levain, que ce fameux gluten s'est fait prédigérer, eh bien nos pains sont plus digestes. Nous avons de nombreuses personnes qui viennent chercher notre pain, qui ne mangeaient plus beaucoup de pain et qui disent « mais on peut remanger votre pain sans difficulté ». Des médecins même envoient des clients auprès de mon épouse le samedi matin à Agen pour acheter du pain.
Mais Jean-François Berthelot, quand on pense à l'histoire du blé depuis ses origines dans le croissant fertile, en passant par l'Égypte des pharaons ou la Grèce de Déméter, c'est jusqu'à au symbole judéo-chrétien. Pour vous, d'où vient cette fascination, ce lien entre l'homme et le blé?
C'est très très difficile de répondre, très 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 personnel. Je pense que le blé s'est offert à l'homme dans la nature, quoi. Et je pense même que quelque part le blé il a civilisé les humains, quoi, parce que c'est au moment de la domestication, quand les gens ont commencé à faire des petits jardins pour cultiver le blé et non plus le ramasser, que autour de ces premiers petits jardins ils ont fait leur maison, ils ont fait leur domicile, le domus, et ils ont fait, et que il y a eu les premières cités, et puis une certaine civilisation qui s'est fait autour de cette plante qui a fasciné l'homme. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est le lien profond avec le blé. C'est ça que les agriculteurs, ils ont perdu, quoi. Ce lien profond avec cette plante qui chemine avec l'homme et qui, depuis 10 000 ans, a cheminé. Regardez tous les rites qu'il y a eu autour des moissons, autour des semailles, à travers la Grèce, à travers la Rome. C'était vraiment incroyable, les rites qu'il y avait pour accompagner, oui, le blé, et qui, justement, avaient pour but, je pense, de rapprocher le blé de l'homme, et il le rapprochait à travers le pain. Et il faisait cette humanité. Il faisait ses copains autour du pain.
Absolument.
Qui partage le pain.
Mais Jean-François Berthelot, est-ce que la mort de ce blé industriel, est-ce que c'est pas aussi une façon de renaître avec ces blés des semences paysannes, de ces blés de la...
Oui, je pense que c'est le blé aujourd'hui, comme il a attiré à une époque l'homme, eh bien, il est en train de lui envoyer un signal, quoi. Le fait qu'il ne se digère plus, qu'il y a tant de problèmes autour du gluten du blé, je suis persuadé qu'une réflexion, et nous l'avons commencé parce que nous avons eu la chance de mettre la main à la pâte et de vendre notre pain, mais je pense que cette réflexion-là, aujourd'hui, elle est arrivée. Il y a suffisamment d'agriculteurs qui commencent une autre démarche, quoi. Je pense que l'histoire du pain n'est pas finie, mais sûrement que l'histoire des pains, l'histoire des blés extrêmement modernes à haute production, je pense qu'elle arrivait à son cycle, à son terme, et que
il va renaître,
oui, il va renaître avec sa diversité qui est gigantesque.
Si l'histoire du pain et du blé n'est pas finie, en tout cas, la durée de cette émission est hélas limitée, donc il faudrait revenir, Jean-François Berthelot, nous parler du pain, parce qu'on a parlé de vos grains, mais il serait temps maintenant de parler du pain. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, de votre Lot, votre ferme du Roc, et je vous dis à très bientôt, j'espère.
Et à très bientôt, voilà.
Attention, hein. 3, 4. Plié, tendu, la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, même de pain. Une émission d'Alain Crugère, avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son et d'Olivier Dupré, et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster, parce que c'est la même chose. Et dans quelques instants, écouter le journal sur France Culture. Hey!
Allez, 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 allez.